Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jeudi, Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous servir. Comment lutter contre l'extrême pauvreté en République démocratique du Congo? On en parle dans la première partie de cette émission avec le professeur Dadi Salé, expert en développement. Selon un rapport de la Banque mondiale, 85,3% des Congolais vivent dans l'extrême pauvreté, avec moins de 3 dollars par jour, selon ce rapport. On en parle aujourd'hui dans cette émission des questions et préoccupations. Appelez déjà au 099-706-99-41. Rumeurs sur la disparition des sexes à Kisangani. Comment stopper les cas de justice populaire? Le sujet sera abordé dans la deuxième partie de cette émission à partir de 11h05, heure de Kinshasa. Professeur Gauthier Moussengue, sociologue, et maître patient Bisselengue, avocat au barreau de la Tchopo et défenseur des droits humains, seront nos invités des questions et préoccupations sur cette folle rumeur dans la province de la Tchopo. Appelez déjà pour inscrivez-vous dès maintenant pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Debs Vita assure la mise en onde, Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission ensemble avec Naomi Moutoukier, et Jonathan Chimanga assure les directs sur les plateformes digitales de Radio Okapi. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien. Okapi. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure au début, nous allons parler aujourd'hui de la lutte contre l'extrême pauvreté en République démocratique du Congo. 85,3% des Congolais vivent dans l'extrême pauvreté avec moins de 3 dollars par jour. Selon les derniers rapports de la Banque mondiale, un contraste frappant avec toutes les richesses immenses que possède le pays et qui sont qualifiées de scandales géologiques. Selon ce rapport, des millions de Congolais vivent dans la précarité. Ils manquent presque de tout, pas d'emploi, manquent des ressources financières, ils ne mangent pas à leur faim, ils ont un accès limité à l'éducation, à la santé, à l'eau potable et à un logement décent. Alors que faire pour sortir durablement la population congolaise de la pauvreté? On en parle avec le professeur Dadi Salé, expert en développement. Professeur Dadi Salé, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous.
Bienvenue dans cette émission. Je pense que vous avez eu connaissance de ces rapports de la Banque mondiale qui parlent d'une pauvreté extrême, qui parlent de 85,3% de la population congolaise qui vit dans la pauvreté. C'est quand même énorme.
Ben oui, ça ne fait que répéter ce qu'on dit depuis plus de 7 ans, plus ou moins, donc il n'y a eu rien de nouveau là-dedans. Donc on a eu accès à ces rapports, et quand ça se répète, et que nous avons proposé depuis très longtemps des pistes de solutions, mais qui ne sont pas appliquées, naturellement nous comprenons que à ce moment-là, c'était à 80%. 81%, et moi j'ai extrapolé avec 83% des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et je pense que j'ai eu des critiques, même du côté de d'autres scientifiques, mais tu sors les 83% d'où? J'ai dit, nos propres enquêtes, et on peut vous démontrer la méthodologie. Mais vous avez compris, les gens ne semblent pas avoir confiance en l'expertise des Congolais. C'est ça le vrai problème que nous avons pour l'instant.
Mais quand on parle de l'extrême pauvreté, qu'est-ce que cela veut dire?
L'extrême pauvreté, c'est-à-dire que la population n'est pas capable de remplir un peu, quand vous prenez la pyramide de Maslow. Donc vous voyez les biens de première nécessité. Ça, c'est l'extrême pauvreté. Si vous n'êtes pas capable de manger suffisamment, juste normalement, mais suffisamment, si vous n'êtes pas capable d'avoir accès à l'eau pour vous laver, ça va, laver les enfants, laver les assiettes, si vous n'êtes pas capable d'avoir accès à l'électricité, juste vous éclairer, on suppose que ça, ce sont des besoins, et d'autres, bien sûr, tout le besoin de première nécessité. Quand vous n'êtes pas capable de remplir cela, alors on dit que vous êtes en extrême pauvreté. Parce que vous n'êtes même pas capable de vous nourrir.
De subvenir aux besoins les plus naturels.
Primaires. On ne parle même pas des besoins secondaires et même des besoins d'une façon tertiaire. Non, des besoins primaires. C'est comme ça. Il y a beaucoup d'indicateurs, n'est-ce pas? Mais ça semble être parmi les indicateurs les mieux parlants. Vous savez, dans les indicateurs aujourd'hui, on parle aussi de l'habitat. Ça va? On parle de l'environnement. On parle aussi de la sécurité, naturellement. Non seulement la sécurité dans les sens environnemental, ça va, carbone, etc., mais aussi de la sécurité dans les sens où vous devez vous mouvoir comme il faut. Donc, c'est comme ça qu'on mesure un peu l'extrême pauvreté.
Bien, vous avez parlé tout à l'heure de la pyramide de Maslow.
Tout à fait.
On entend souvent parler de cela. Et c'est quoi cette pyramide? C'est quoi les contenus?
Alors, les contenus, c'est que Maslow a pu au moins déceler un peu le niveau, entre guillemets, des vies. Les niveaux où on peut se dire, bon, qu'il y a une catégorie de personnes.
C'est qui Maslow, un économiste?
C'est juste un économiste, voilà. Et on a fait la même chose, mais c'est la pyramide de Maslow. Vous savez, on est scientifique, mais on doit avoir des références dans ces cadres-là. Parce que si vous prenez aussi le professeur Younous, dans ses travaux de lutte contre la pauvreté, avec la banque Grameen, ça va, avec surtout des microcrédits, etc., microfinance, il en parle suffisamment. Mm. Et dans tous nos travaux, puisque nos travaux ont toujours des soubassements, dans tous nos travaux aussi on en parle. Mais surtout aussi avec Raymond Debord. Il parle un peu de la psychologie du pauvre, ça va. Où exactement, si on ne tire pas attention, on reste dans la pauvreté. Donc, la pauvreté appelle l'extrême.
Maslow, d'abord, identifie les besoins.
Catégorise les besoins de l'homme. Exactement, de l'homme. Si tu n'arrives pas à remplir, à réunir, à être dans cette catégorie, facilement, on peut te taxer. Tu es pauvre, tu es extrêmement pauvre. Ou bien tu es riche, ou bien tu es extrêmement riche. Voilà, simple que ça.
Les besoins primaires, c'est manger.
Les besoins primaires, c'est manger, c'est loger, boire,
travailler,
avoir un petit travail, même juste décent, être capable de subvenir à ses besoins, comme on dit, primaires. N'est-ce pas? On a bien précisé. Si tu n'es pas capable de manger, disons, deux fois la journée, et tu manges quoi? Ça va? Mais juste manger au moins à sa faim, ok? C'est-à-dire que là, il y a ça ne va pas. Si tu n'es pas capable d'avoir de l'eau, pour te laver, juste laver le corps, aussi simple que ça. C'est un besoin primaire parce que c'est rattaché directement à la vie humaine. C'est ce qu'on appelle besoin primaire. Au fond, les besoins primaires sont plus importants que les besoins secondaires et les besoins tertiaires. Ça, c'est un peu quand on explique un peu, les gens pensent que ce sont, quand on dit besoin primaire, c'est ça qui est moins important. Non, c'est le besoin le plus important. C'est-à-dire que si tu ne le fais pas, tu risques de mourir. Donc c'est vraiment important, nécessaire, et qu'aucun être humain, ça va, ne peut se dire que non, moi je n'ai pas besoin de remplir ces conditions-là. Non, tout être humain doit manger, tout être humain doit dormir dans un toit, ça va, un peu acceptable, ça va, parce que si tu ne dors pas, eh ben tu meurs. Et la question sanitaire aussi est importante. Nous avons des maisons, par exemple, qui n'ont pas de toilettes, ok? Et que leurs toilettes, effectivement, ne sont pas confortables. Tout cela fait partie des besoins primaires. Parce que si un être vivant ne va pas à la toilette, ou bien a des difficultés d'aller d'une façon un peu décente, voilà pourquoi on appelle ça lieu d'aisance, ça va, d'une façon décente à une toilette, c'est-à-dire il n'arrive pas à remplir les conditions de besoins primaires.
Alors, quand on dit qu'au moins 85% des Congolais vivent avec 3 dollars,
moins de 3 dollars,
aujourd'hui avec les dollars qui sont en train de dégringoler.
Exactement.
J'imagine, ils vivent avec combien?
La situation s'empire. Vous avez bien compris, c'est-à-dire que le panier de la ménagère, ça va, fait défaut, ok, ce qui fait que la consommation devient encore un peu plus difficile. Parce que si tu y avais, comme beaucoup de gens ont eu la malheureuse habitude d'avoir des dollars, n'est-ce pas, en main, exactement, quand vous aviez 20 dollars, et vous savez que non, je vais faire la provision de mes enfants, ok, de la famille. Et que le 20 dollars là, ça va, 10 dollars à ce moment-là, disons 27, ok. Donc vous aviez déjà un calcul, ce que vous deviez acheter. Maintenant, pour l'instant, au moment où nous vous parlons, eh bien, c'est-à-dire que le panier de la ménagère vient de subir un coût. Mais c'est temporaire, je l'explique à tout le monde économiquement parlant, ça va, c'est tout à fait normal ce qu'a expliqué la Banque centrale, les gouverneurs de la Banque centrale. Une mesure des politiques monétaires ne prend pas effet immédiatement si la structure économique n'est pas digitalisée et contrôlée.
Ça bon, peut prendre même. On fera une émission spéciale.
Ne vous gênez pas.
Où on va revenir sur ça.
Parce que là, c'est la pauvreté.
C'est la pauvreté
c'est
même.
La pauvreté.
On est dedans.
Tout à fait.
Alors, quelles sont les causes? On parle aujourd'hui de la pauvreté extrême. Quelles sont les causes de cette pauvreté extrême, professeur?
Vous savez, toute le fois que j'essaie d'expliquer à ce point, on n'a pas beaucoup de temps pour parler des solutions. Parce que les causes, nous les connaissons en général, n'est-ce pas? Mais je préfère plutôt parler de pistes de solutions.
Non, mais vous pouvez rapidement...
Oui, je vais y aller. En parlant de pistes de solutions, nous allons parler des causes. C'est d'accord. Une proposition que je vous fais. Je sais, c'est toujours ça.
Oui, allez-y.
Mais on passe tous les temps en se blâmant, en essayant de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, mais c'est un peu comme s'il n'y a pas de solution.
Okay.
Vous m'excuserez.
Allez-y,
pédagogiquement.
Professeur.
Donc, moi, j'ai fait une petite proposition très simple, schématisée. Nous sommes dans un cercle vicieux de la pauvreté. J'expliquerai les causes, effectivement. Cercle vicieux de la pauvreté.
De la pauvreté.
Il faut sortir du cercle vicieux de la pauvreté pour avoir les cercles vertueux de la richesse. Un petit schéma. Pour moi, je propose la philosophie Kujitegemea, Tumilu Kelatuso Sangemo Situji Kebela, pour sortir de ces cercles vicieux, n'est-ce pas, de la pauvreté, pour avoir les cercles vertueux de la richesse. Mais c'est là, en comprenant un exemple simple. En appliquant, par exemple, la solution du type néo-mercantiliste, excusez-moi, c'est un peu technique, par exemple, avec les systèmes industriels complets. Les systèmes industriels complets, c'est-à-dire que nous devons être le premier producteur. Parce que nous avons effectivement un problème, parmi les causes, c'est que nous ne produisons pas. Ça va. La production, ça va, n'est pas dans les mains des Congolais. Ce qui fait qu'effectivement, nous surfons dans les cercles vicieux de pauvreté. Vous avez compris? Un des plus grands problèmes, c'est que nous avons un problème de production. Malheureusement, le problème de production vient des causes un peu plus profondes.
Production de quoi?
Des productions de biens de première nécessité. On n'est pas industrialisé. Et on ne produit pas assez. Même du côté agricole, même du côté, entre guillemets, comme on dit, industriel. Non.
La production est très faible.
La production est trop, est presque inexistante. Pour que les gens puissent comprendre. Nous importons un peu de tout. Vous comprenez que je répète ce que tout le monde sait.
Oui.
Côté import-export, c'est là où j'ai dit, j'aime vraiment qu'on se concentre maintenant vers des pistes et des solutions parce que les gens connaissent cette chanson. Mais on a un problème macro-développementaire et un problème micro-développementaire. Parmi les causes, le problème macro-développementaire, ça signifie quoi? Si nous n'arrivons pas à contrôler, ça va, notre développement structurel, c'est-à-dire les grandes infrastructures, les routes, etc., ça va? C'est-à-dire effectivement que nous n'avons pas les éléments. Nous n'arrivons même pas à contrôler notre monnaie. C'est-à-dire effectivement, c'est une question macro, développementaire, macroéconomie, etc. C'est une question macro. Parce que, par exemple, notre économie est dollarisée. Et exactement, nous comptons plus sur des monnaies étrangères que sur notre propre économie. C'est-à-dire, ce sont des aspects macro-développementaires, structurels, qui font en sorte qui doivent impacter maintenant sur les aspects micro-développementaires. Et beaucoup des solutions qui ont été mises en place par beaucoup de politiques, que ça soit monétaire, que ça soit budgétaire, que ça soit économique, ça va, ça a plus touché malheureusement les aspects micro-développementaires. Je m'explique. Les aspects micro-développementaires, c'est-à-dire quoi? Bon, ok, on peut soutenir les entrepreneurs avec le projet COPA. Vous me comprenez?
Oui.
C'est très important, mais c'est absolument insignifiant. Ah oui, et quand je l'explique, mon homme dit, mais Dadi, qu'est-ce que tu veux dire? Non, ça ne signifie rien et ça ne peut jamais sortir, jamais n'existe pas, mais ça peut presque jamais sortir les gens de la pauvreté.
Mais beaucoup disent que l'entrepreneuriat, c'est la porte de sortie de la pauvreté pour créer de la richesse.
Oui, je suis expert en entrepreneuriat.
Oui.
Et là, je défends ma thèse en entrepreneuriat. Ça, parce que j'aime l'expertise qui est combinée avec aussi des connaissances.
Tout à fait.
C'est très important. Non, s'il vous plaît, c'est une mauvaise conception. La vraie conception qui n'est pas dite, c'est qu'il y a l'aspect macro-entrepreneurial.
Ok, un instant, professeur. Allez, on va accueillir les auditeurs qui sont déjà en ligne. Charles Kissimba nous appelle de Lumbashi. Astik est à Kalemi. Justin Koulou à Fungurume. Malonga de Bandundouville. Charles Kissimba, bonjour et quelle est votre question? Allô?
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à l'invité.
Oui, quelle est votre question par rapport à la pauvreté extrême en RDC?
Merci pour ce thème. C'est vraiment alarmant, mais c'est visible et on ne peut pas nier. Les causes sont nombreuses, mais moi je vais énumérer un peu trois grandes causes. La première, il y a la crise de conscience de nous-mêmes populations. La grande responsabilité nous revient. Parce que nous continuons à espérer à nos politiciens. Écoutez, chère population, la panne ne tombera plus du ciel. En tout cas, soyons conscients pour quand même sauver cette situation-là. Première cause, messieurs les journalistes, c'est l'absence de la classe moyenne. Dans ce pays, il y a l'absence de la classe moyenne. Leur pensée est ailleurs.
Charles,
l'invité, au moment où l'économie verte est abandonnée à son triste sort.
Allô, Charles.
Et la troisième cause, c'est la vie facile à milieu urbain. Ici, à milieu urbain, en tout cas, nous voulons que la vie facile. Or, dans les milieux ruraux, la souffrance quant à notre suffisance alimentaire n'est pas de garde comme à milieu urbain. Alors, en tout cas, c'est pour moi l'occasion de plaider, de sensibiliser à toute cette population-là urbaine de revenir à la conscience. Si vous, l'agriculture, l'élevage et consort, ce n'est pas seulement l'apanage des villageois comme nous le disons souvent, mais prenons-nous conscience, mais dans la main.
Merci beaucoup, Charles.
Cette situation-là sera soulagée.
Merci.
Voilà un peu tout ce que j'avais à contribuer chez les journalistes.
Merci beaucoup, Charles. Astik, vous êtes à Kalemi, bonjour.
Bonjour, cher Emmanuel.
Quelle est votre question par rapport à l'extrême...
Bonjour.
Allez-y rapidement.
Merci beaucoup, journaliste. Salut à l'invité, salut à tous les auditeurs de la radio, Papi, Radio de la Paix. Merci que vous viviez depuis la ville de Kalemi à celui de la société civile qui a été fait via Congo. Par rapport à la pauvreté et le résultat du rapport de recherche internationale, d'abord notre pays n'a pas la politique de faire sortir le peuple congolais à la pauvreté. Par rapport à quoi? D'abord, il n'y a pas une politique d'agriculture. Sans l'agriculture, notre pays n'était pas développé. Sans une bonne électricité, sans une bonne régie de l'eau, surtout dans le pays de l'Afrique, il n'y aura pas de développement. Une politique d'accompagnement d'individus qui n'est pas dans la politique. Aujourd'hui, notre pays, c'est les individus qui gèrent le pays qui sont riches. Mais pourquoi ils planifient pour que le bas peuple puisse se sortir et se localiser avec eux. Cela n'est pas dans la politique.
Quelle est rapidement, les autres attendent rapidement, passer à la question. Quelle est la question que vous adressez à l'invité pour aller très vite?
Merci beaucoup. Je voulais poser la question à l'invité. Qu'est-ce que le planifie avec leur recherche, avec leur expertise, par rapport à cette rapport que des sorties. Et comment notre pays peut faire pour que nous puissions devenir un peu dans une légalité?
Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Astik. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette pauvreté extrême? Justin Koulou, vous êtes à Fungurume, Malonga, Bandundouville. Merci d'aller tout droit au but pour permettre aux autres d'intervenir. Justin Koulou, bonjour. Quelle est votre question?
Bonjour, merci Jody. Et bonjour à notre invité qui est au studio aujourd'hui.
Bonjour.
Ok. Je me dirige tout droit vers notre invité. Je voulais savoir où les points d'échantillonnage, là où ils ont trouvé 85%, si ils ont, puisque je connais les méthodes, on ne peut pas demander tous les Congolais comment ils vivent chez eux pour faire le calcul. On peut choisir des ménages, on sorte, on demande. Je demande l'échantillon. Est-ce qu'ils ont pété aussi dans les Olomami, dans les Lualaba, pour établir cela? Et deuxièmement, les taux là retrouvés de 3 $, c'est inclus une personne qui se débrouille. Bon, le ménage qui se débrouille, il part au champ, la femme déracine les maniocs, le mari attrape les souris et le rat, et on fait les calculs qu'aujourd'hui nous avons consommé 3 $. Ceux-là aussi sont inclus, ou soit c'est seulement les fonctionnaires, ou soit les gens qui bénéficient l'argent de salaire, ou soit les agents de l'État. Qu'ils me donnent un peu de parallélisme sur ça, s'ils sont aussi inclus. Mais c'est aujourd'hui, sans aller sur les dos du cuillère, le Congo est amorphe sur le point de la production. Même si notre invité a essayé d'expliquer beaucoup, aller, descendre, même si les économistes ne vont pas bien comprendre, ce qui est à la base et ce qui manque dans les psyches des Congolais, c'est créer la production. La production, quand on a des industries, on fait les champs, on produit, on exporte aussi ailleurs. Le Congo va se tenir debout. Nous sommes prêts à être esclaves de la Zambie tout de suite là. On est en train de pleurer le Rwanda, mais nous cherchons à déboucher encore les trous pour être en contact avec la Zambie, afin d'avoir les produits de première nécessité, or que nous avons les terres arables. Qu'est-ce qu'il faut en tout cas que notre invité nous donne des solutions? Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les traitements thérapeutiques à nos décideurs de passer tout droit à l'exécution? Merci. Je demanderai, M. Jody, si vous allez me laisser un tout petit peu, puisque je ne suis pas là où je peux suivre l'information, si je peux suivre les commentaires de notre invité sur mes questions, mes réponses, et si au besoin, s'il peut même débiter sur mes questions.
Merci beaucoup. On va donner la parole à Malonga de Bande Nouville. Bonjour Malonga.
Oui, bonjour Jody, et bonjour à l'invité, à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup, malgré nous sommes... c'est 3e semaine ici sans courant et la radio Capi est très difficile pour capter.
Oh là là,
bon,
désolé.
Ici, oui, en tout cas, c'est comme ça. En tout cas, moi, je n'ai pas de questions aujourd'hui, j'ai des propositions. Ça dépend de la volonté politique de nos dirigeants. Puis, l'extrême pauvreté de la population est due par manque des infrastructures, puisqu'il n'y a aucun pays dans le monde que les dirigeants font nourrir la population. Non. Mais s'ils disposent, même 85% de la volonté de la population, les routes, surtout les routes de dessert agricoles, puisque la population sont des vrais agriculteurs. Et s'ils sont bien maintenus, sécurisés là, en tout cas, vous verrez, la population elle-même se développe. Nous, ici, de Bande Nouville, nous chantons, nous pleurons chaque fois. Si on nous asphalte seulement le tronçon de Mongata et ici à Bandundu Ville, en Gandambo, vous verrez vous-même si vous arrivez à Bandundu, même le tronçon ici, vous verrez vous-même comment est-ce que la population va se développer. Donc, ce sont les politiciens qui peuvent endurcir la pauvreté de leur population et ce sont elles aussi qui peuvent aussi faire rehausser la vie de la population. D'où j'invite aux politiciens de travailler en synergie. Puisqu'il y a ceux qui ont cette volonté-là. Et il y a d'autres, ceux qui n'en ont pas. Ils veulent seulement leur sel s'enrichisse, font ce qu'il faut, et laissent la population comme ça. Même les élus, ils ignorent les électeurs. Alors, il faut qu'ils imposent la volonté politique pour que la population sente vraiment qu'elle se trouve dans leur pays d'origine et elle doit se développer comme elle soit.
Merci.
C'est la population elle-même qui se développe.
D'accord.
Merci beaucoup, Jody.
Merci. Merci beaucoup. Bonne journée, Monsieur Malunga. Professeur Dadis Salé, vous avez suivi.
Oui,
parmi les propositions, certains disent qu'il faut développer plus l'agriculture, mettre en place des politiques, voilà, pour développer l'agriculture, et c'est là, créer plus la plus de production, et il y aura des emplois, et on va en finir avec le chômage, et on va sortir de la pauvreté.
C'est la chanson, qui ne laissait pas qu'il faut produire. Donc, à notre ami, on dit, il a tout à fait raison, mais c'est pas ça le problème. C'est que...
C'est pas ça la solution?
C'est pas ça. Écoutez, quand on dit il faut produire, la question n'est pas est-ce qu'il faut produire. La question c'est comment produire, quelles sont les structures pour la production, pour quelle est la politique pour faciliter la production. Comme je vous ai dit, comme nous sommes dans une situation pratiquement néocolonialiste, vous me comprenez, comme nous sommes dans une situation effectivement de dépendance, malgré le peu de production qu'il y a, vous comprenez que c'est insignifiant parce qu'effectivement ce sont même les étrangers qui produisent encore mieux en République démocratique du Congo. Exemple de toutes les grandes entreprises qui produisent au Congo. Vous comprenez? C'est une production, mais qui ne bénéficie pas effectivement aux Congolais. C'est la raison pour laquelle nous parlons plus effectivement de la révolution culturelle, la révolution économique. Vous savez pour quelle raison nous proposons la révolution, ça va, économique? Tout simplement parce que toutes les productions, vous avez vu, il y a un ministre qui avait dit consommons produits locaux.
Oui.
N'est-ce pas? Mmh. Oui, mais on consomme produits locaux, mais produits par les Chinois, par les Libanais et par toute autre personne, sauf les Congolais. Ce qui fait que ce n'est pas vraiment une solution.
Mmh.
Et or, si vous considérez que exactement pour produire, il faut des capitaux, il n'y a pas de banques. Je vous ai parlé du macro-développement. Donc, je suis désolé à mon ami, ce n'est pas la production la solution. C'est quelle production, comment est-ce qu'on produit?
La production agricole, ils ont parlé de l'agriculture.
Non, non, même la production,
la priorité des priorités.
Je répète, je suis expert, ce n'est pas la priorité tant que c'est produit par les étrangers. Il faut le répéter combien de fois? Nous pouvons avoir les cacao en République démocratique du Congo qui est produit par effectivement les étrangers, les entreprises de la France, etc. La marge bénéficiaire et la valeur ajoutée ne va pas bénéficier aux Congolais. Ce qui fait que nous tournons vers les cercles vicieux de pauvreté. Vous produisez mais vous ne produisez pas pour vous-même. Si vous prenez pour l'instant la balance commerciale...
Mais au moins ça crée des emplois.
Je le répète, les emplois sont créés depuis 1960, mais des emplois précaires. Et effectivement, qui garde, c'est ça que je vous dis, ça garde la population dans les cercles vicieux de pauvreté.
Mmh.
Ok, quand nous avons parlé d'entrepreneuriat, j'ai vu, vous êtes expert en entrepreneuriat, on se connaît, n'est-ce pas? Je l'ai dit, c'est une question d'expertise.
Oui.
Tout l'entrepreneuriat que nous faisons, tant que ça reste micro, c'est-à-dire donner des crédits, donner de l'argent, enseigner aux gens de produire, d'entreprendre, c'est très bien. Mais on n'apprend pas aux gens la macro-entrepreneuriat. Ça, c'est le problème.
C'est-à-dire
exactement quoi? On doit mettre des infrastructures nécessaires. Exemple simple et bête. Juste le route. Si vous produisez à Kasongo, vous me comprenez?
Oui.
Ou bien vous produisez à Massissi, vous produisez. Vous produisez les riz, vous produisez effectivement tout le reste. Ok? Ou bien vous allez à Mahagi. Je cite des endroits précis. Je vous assure que le riz pourrit vers Kasongo et vers Kalima, parce qu'il n'y a pas de route. Et parce qu'il n'y a pas effectivement
les
industries.
Les routes agricoles.
Exactement. Voilà. Et il n'y a pas effectivement les transformations locales. C'est-à-dire des industries. Je vous ai parlé du système industriel complet. Mmh. Vous avez compris? Non, il faut pas penser que c'est la matière de tout le monde parce que vous parlez de production. Non! S'il vous plaît, je sais que beaucoup de gens vont me contredire, mais il faut comprendre l'expertise. Ce n'est pas produire le problème nécessairement. C'est comment, quand et qui produit. Ça va? Je précise qu'à Kalima, on produit. À Kasongo, on produit du riz. Et ça pourrit. Parce qu'effectivement, il n'y a pas l'accompagnement structurel, vous comprenez?
Oui.
Il n'y a pas des infrastructures nécessaires, ça s'appelle macro-entrepreneuriat, dans macro-développement. Donc, on ne peut pas faire seulement de la micro-entrepreneuriat, vous me comprenez? Et en pensant que ça va développer le pays. Non, ça ne pourra, je vous précise, je l'ai dit et je l'ai redit, jamais. Nous savons qu'il y a des ONG, n'est-ce pas? Et des entreprises, et nous-mêmes et vous. Ça va, nous nous impliquons dans l'entrepreneuriat, mais malheureusement nous impliquons plus dans ce qu'on appelle micro-entrepreneuriat.
Mais le gouvernement a développé le programme avec les zones économiques, etc. Il semble que c'est avec ce genre de programme qu'on peut développer l'entrepreneuriat au niveau global.
ZES, ça s'est fait en Chine, ça va, mais malheureusement, effectivement, il faut des stratégies unifiées. On ne peut pas faire des stratégies isolées, vous me comprenez, et espérer avoir des résultats. J'avais fait déjà des commentaires à son temps. Heureusement, c'est documenté. Ça va? Ça ne pouvait pas marcher. Les quatre zones industrielles ne pouvaient pas marcher. Pourquoi? Parce que c'était sur base, effectivement, des investissements des étrangers. Ça va? Les Congolais sont trop peu. dans des zones industrielles. Ben, ce qui fait que ça ne marche pas. Absolument. Je le précise. Les zones, les quatre zones industrielles ne pourront jamais marcher. Pour le développement, faites attention. Une entreprise d'une zone industrielle peut marcher, Maluku. N'est-ce pas? Peut marcher et produire du ciment. Ok, et produire des carreaux. On est concret, non? Et ça fait quoi maintenant? Dis-moi, quel est l'impact effectivement sur le terrain? Pas grand-chose. Effectivement, malgré cela, vous avez bien compris que la pauvreté globale des Congolais s'est accrue. Quel est le résultat? C'est pas moi qui donne les résultats. Quel que soit ce que les gens, je dis pas qu'ils ont trompé, ils ont essayé, ça ne peut pas marcher parce qu'on ne sait pas réapproprier l'économie congolaise. Je vous précise, sans faire la révolution économique, toutes les stratégies, surtout micro-développementaires que nous allons utiliser, ne vont pas sortir les Congos, c'est une théorie bien vérifiée. Les Chinois, pour qu'ils sortent de la pauvreté, ça va.
C'est quoi? Quelle était la politique qu'ils ont appliquée?
Eh ben, très simple. C'est réapproprier d'abord l'économie. La première des choses, c'est réapproprier l'économie. Est-ce que vous savez que ce que nous appelons fuite des capitaux, ça va? C'est un pillage plus que l'or et les diamants. Ah oui, fuite des capitaux, c'est-à-dire comme nous ne détenons pas toutes les entreprises à plus peut-être des 90%, ça va des grandes entreprises au Congo, que ce soit brassicole, que ce soit des communications, exactement. Donc la valeur ajoutée ne reste pas construite en République démocratique du Congo. Donc le peu des Congolais qui ont le travail, qui ont 1000, 1500, 2000 dollars, ok, ils ne font que survivre. Mais la majeure partie des Congolais reste dans l'extrême pauvreté. Les chiffres en parlent, ce n'est pas moi. Vous avez les grandes entreprises. Vous avez toutes les politiques que vous avez essayées. Nous avons formé les gens en entrepreneuriat. Nous continuons. Mais pour un de nos amis, je pense de Kikwit ou bien avant, qui a parlé effectivement de
la classe moyenne. Quelqu'un a parlé
de la classe moyenne. Effectivement, oui. Ce n'est pas possible de créer une classe moyenne si on ne s'approprie pas l'économie. Là, la classe moyenne qui est en train de se créer, c'est quelle classe? C'est la classe des Chinois, c'est la classe des Libanais, ça va. C'est la classe effectivement des étrangers, parce que c'est tout à fait normal, c'est eux qui ont la valeur ajoutée. La classe moyenne qui s'est créée, c'est la classe des gens qui ont les banques. Les Kenyans, ah oui, les Kenyans maintenant commencent
à devenir... Les Congolais qui travaillent là-bas dans ces structures-là...
Ils sont minimes, c'est un peu ce qu'on appelle l'effet collatéraux. C'est pas ça les gros, ça va. C'est les Kenyans qui a ouvert sa banque, c'est les Nigérias, on n'a aucune banque congolaise, vous comprenez? C'est-à-dire effectivement que nous n'avons pas des milliardaires congolais qui vont bénéficier de la manne de ces banques-là, qui vont bénéficier de la manne de ces grandes entreprises. Parce que c'est de ça maintenant qu'ils vont créer d'autres entreprises, etc. et des industries. C'est ce que j'appelle cercle vertueux de la richesse.
De la richesse.
Nous sommes dans un cercle vicieux de la pauvreté. C'est-à-dire effectivement que ce vrai nous roulons. On crée quelques petits millionnaires par-ci, par-là, mais on crée plus de pauvres que les millionnaires. Et on ne pourra pas arriver à une vraie classe moyenne sans la révolution. C'est tout à fait normal. Parce que vous voyez, maintenant, on a des Chinois et des peut-être d'autres nationalités qu'on ne connaît pas qui, eux, viennent faire le travail que les Congolais devaient faire pour les routes. Et vous les voyez, matin, midi, soir. Donc, au fond, et le ministre de l'économie, je pense qu'il y en a encore parlé, ben, écoutez, n'en parlez plus, exécutez.
Aujourd'hui, par exemple, le petit commerce est réservé aux nationaux.
C'est officiel, mais ce n'est pas vrai. Dans la pratique, ce n'est pas ça qui se passe. Non, nous avons un problème de révolution, je viens de répéter, révolution économique. C'est prévu dans la Constitution qu'il y a des secteurs qui ne doivent être que pour les Congolais, les petits commerces. Mais vous le savez mieux que moi que ce n'est pas vrai. Nous voyons tous les Libanais, les Chinois qui sont dans des caisses, ça va, et qui même parfois eux-mêmes transportent des choses. Tout le monde le sait, et parfois viennent vendre. Est-ce que c'est une maman des Delvaux qui va me dire le contraire? Ça va, ou bien des Kasongo? Les Chinois eux-mêmes passent dans des quartiers pour vendre de quoi? En détail des casseroles, mais tout le monde le sait. Qui ne le sait pas? Donc, nous avons un problème d'application. Il ne faut pas qu'on reste théorique comme quelqu'un l'a dit.
Professeur, certains disent que pour sortir de la pauvreté, il faut lutter contre la corruption, créer plus d'emplois, etc., développer l'agriculture.
Je suis d'accord que ce sont des mots génériques. Je suis précis. Ce sont des mots génériques. Lutter contre la corruption, ça va, la transparence, etc. Et c'est ce qui a été dit dans les rapports. Les rapports n'ont pas dit ce que je suis en train de dire ici. Les rapports n'ont pas dit que pour que le Congo, il faut savoir, les rapports ont été faits par la Banque mondiale. La Banque mondiale ne développera jamais la République démocratique du Congo. J'ai fait un rapport officiel sur ça, pour une très grande entreprise, une enquête. Et c'était documenté. La Banque mondiale ne développera jamais la République démocratique du Congo, ni le FMI. Ça pourra aider parce que ce n'est pas à la Banque mondiale, je n'injurie pas la Banque mondiale, ce n'est pas à la Banque mondiale de faire la politique, comme je l'ai dit, la révolution de la politique économique agricole, qu'on venait de le dire. Ce n'est pas à la Banque mondiale, c'est au peuple congolais, quelqu'un l'a dit, et c'est effectivement au gouvernement congolais. Tant que nous ne le faisons pas, je suis dur. Vous savez pourquoi je suis dur? Parce que les gens vivent dans l'illusion des développements. Ah oui, entrepreneuriat, on apprend les gens à entreprendre quelques petits trucs.
Le concours, plein d'affaires, plein
de... Non, ce sont des choses importantes. Je suis coach là.
Un instant, professeur, il y a beaucoup de... On va accueillir les auditeurs. Blaise Saïdi est à Kisangani, Jeannot Louembo est à Kolwezi et Ogi Bosenga à Kolwezi. Blaise Saïdi, bonjour. Quelle est votre question ou quelle est la solution que vous proposez pour lutter contre l'extrême pauvreté en RDC?
Oui, merci cher Jody. Bonjour à l'invité, bonjour aux auditrices et auditeurs de la Radio Capi. Je dois un peu épargner quelques théories, je dois aller tout juste à quelques questions. La répétition est toujours la mère des sciences, puisque vous avez déjà parlé à ce qui concerne les principales causes de la pauvreté. Je reprends d'une autre manière. Quelles sont les principales causes de la pauvreté persistante
en RDC malgré... Blaise, vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est mieux de passer directement aux questions.
Oui, je suis déjà là. Quelles sont les principales causes de la pauvreté persistante en RDC malgré ces immenses ressources naturelles? C'est ça la première question. La deuxième est que comment l'État congolais peut-il concilier croissance économique et la réduction effective des inégalités sociales. La troisième question, quel obstacle freine la mise en œuvre efficace des politiques publiques de réduction de la pauvreté en RDC? Pour citer, comment promouvoir une agriculture moderne et rentable pour lutter contre la pauvreté rurale? Je me limite à ces quatre questions, cher Jody.
Merci Blaise Saïdi. On va accueillir un autre auditeur. Merci d'aller droit au but pour permettre aux autres d'intervenir. Jeannot Louembwe de Kolwezi, bonjour. Et quelle est votre question? Jeannot n'est plus là. On va prendre Ogi Bosenga de Kolwezi, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste. Et je dis bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Oui, quelle est votre question, monsieur Bosenga?
Oh, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je n'ai pas vraiment de questions, mais j'ai une question. Je pense que sur l'extrême pauvreté de la population africaine en général, et en particulier congolaise, donc le peuple à travers le monde, a beaucoup de problèmes suite à une prise de conscience. Monsieur Jody, vous allez vous imaginer que il y a des pays dans les années 60, nous étions au même niveau sur le plan économique, sur le plan industriel et tout comme ça. Et c'était un pays qui était aussi occupé par les Européens, les Occidentaux, les impérialistes. Mais aujourd'hui, quand nous allons nous comparer avec ces pays, c'est dommage. C'est alarmant.
Oui, allez-y rapidement. Oui, Bosenga, on passe directement à la question.
Je voulais dire ceci. Tout a échoué. Tout ce qui est le talent, nous en essayons, les systèmes éducatifs, la démocratie, les religions et tout quoi doit être mis en question et revue pour avoir cette vision de notre beau continent. Nous avons tout ce qui est sur le sol pour développer, pour moderniser, mais nous devons savoir parce que la population n'est pas suffisamment instruite. Voilà un peu ce qui était ma contribution.
Merci beaucoup. Sylvain Aguenora, vous êtes à Arou, bonjour. Ah ben là, Sylvain n'est plus en ligne. Désolé, professeur, vous avez suivi, Dadi Salé, vous avez suivi les préoccupations. À vous la parole.
Oui, essayons de ramasser. Il y a notre ami qui a parlé de méthodologie. n'est-ce pas, ce qui a été utilisé par la Banque centrale. La Banque mondiale plutôt. C'est un peu trop, mais ils ont fait un travail scientifique où effectivement les sources viennent vraiment des enquêtes. Ils ont utilisé des échantillons aléatoires et stratifiés par province et milieu. Ils ont considéré une taille approximative de entre 10 000 à 20 000 ménages, et il y a beaucoup d'indicateurs, donc je risque de dormir là-dedans. Vraiment, la méthodologie est assez longue.
Scientifique,
il peut se rassurer que scientifiquement ils ont bien fait leur travail. Ça, c'est sûr et certain. Il peut lire les détails, effectivement, dans les livres. C'est bien notifié là-bas. Donc, il n'a pas de difficulté. Quant aux villes, je n'ai pas de précision. Est-ce qu'ils ont touché Kikwit? Ils ne peuvent pas avoir touché tous les villages du Congo. Oui. Ce n'est pas possible. C'était une petite réponse à notre ami. Maintenant, l'ami qui parle, par exemple, des principales causes, ben, il a tout à fait raison. Parce que rapidement, ce sont des politiques, comme je l'ai dit, des politiques économiques et l'économie politique qui n'a pas marché au Congo jusque-là. Nous avons un problème, un double problème, des considérations stratégiques de la pauvreté et des considérations opérationnelles de la pauvreté. Bien sûr, je suis enseignant, je ne peux que donner d'abord des grands concepts. On n'a pas le temps de tout expliquer. Mais dès que vous n'avez pas une bonne stratégie, ils n'ont pas rompu comme notre ami, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas rompu avec effectivement les mauvaises habitudes nous inculquées par les néocolonialistes. C'est-à-dire que nous avons déjà une très mauvaise éducation. Ça va? Nous avons une très mauvaise éducation qui est extravertie. Déjà notre éducation est extravertie. Nous ne parlons même pas vraiment nos langues. Exactement, ce n'est même pas encouragé en grande partie. Et exactement, ce qui ramène souvent sur terrain, même en agriculture. Ça va? Les blancs, les gens pensent que c'est ce qu'il faut. Donc, les pesticides, etc., pour notre agriculture. Non, nos ancêtres faisaient déjà de l'agriculture. Et on n'avait pas besoin des techniques parfois venant de l'Europe. Ça peut venir compléter. Mais c'est un peu comme si nous avons abandonné presque totalement les techniques agricoles et les techniques de production, ça va, qui viennent de nos ancêtres. Ce qui fait quoi? Eh bien, quand vous copiez quelque chose, vous êtes obligé de comprendre et chaque fois de demander, de poser la question à là où vous avez copié. Donc, on n'a plus notre originalité même en économie. C'est la raison pour laquelle, comme notre ami nous l'avons si bien dit, il nous faut, j'insiste, sans la révolution économique, ok, oubliez le vrai développement durable au Congo. Pourquoi?
Et la révolution économique passe par...
C'est que j'ai dit. Oui. Je l'ai dit. Il faut comprendre effectivement que nous avons... J'ai fait le
permettre
petit schéma.
La création des entreprises tenues par les Congolais.
Oui, tenues par les Congolais. C'est là où je parlais du système industriel complet. J'ai dit chaque point je peux expliquer. Pour quelqu'un qui ne comprend pas, mais on n'a pas beaucoup de temps. Le système industriel complet pour l'instant, partant du néo-mercantilisme, ça ne part pas du néolibéralisme. Absolument pas, parce que pour l'instant nous sommes dans le néolibéralisme, c'est-à-dire un peu la liberté à outrance, le capitalisme. Non, pour l'instant on ne peut pas se permettre comme la Chine de faire le néolibéralisme, ça va, c'est-à-dire le marché libre. Tout le monde parle du marché libre et les gens sont contents. Non, ça s'appelle piège. On ne pourra jamais s'en sortir tant que le marché restera libre. Il faut le maximum de protectionnisme, ça va, pour d'abord établir des bases solide pour les Congolais. C'est ce que Mao Tse-Tung avait proposé, et la Chine, c'est ce qu'ils ont fait. D'abord, ont fermé de frontières, on n'est pas obligé, hein. Il y a beaucoup de techniques maintenant qu'on peut utiliser. Ils ont fermé des frontières, ils sont d'abord arrivés à remplir le minimum, n'est-ce pas? Ils payaient mal les gens, mais il fallait d'abord qu'ils arrivent à manger. Ils sont arrivés à récupérer leur économie, les industries. Est-ce que vous savez qu'il n'y a que 7 ans que les Chinois ont ouvert certains domaines pour les étrangers? Donc, tel domaine, par exemple, les mines, non, ça j'ai dit pour nous, les mines, aucun étranger, ça doit appartenir à plus de 90% aux Congolais. Vous savez, hein, on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Je pense que vous m'avez invité pour que je donne des pistes et des solutions comme expert.
Il faut une politique protectionniste.
Il faut une politique protectionniste, ce n'est pas... Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune entreprise congolaise qui peut faire concurrence à des entreprises étrangères qui ont déjà des capacités, non seulement financières.
Professeur, on est presque à la fin. En conclusion, qu'est-ce qu'on retient?
En conclusion, il faut une révolution politique, une révolution économique, une révolution culturelle. Ça s'appelle effectivement stratégie stratifiée, c'est-à-dire stratégie unifiée, où il y a plusieurs politiques qui sont combinées, comme je l'ai dit, pour que nous puissions arriver à sortir de la pauvreté d'une façon durable.
Professeur Dadi Salé, expert en développement, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Excellente journée et bonne semaine.
À vous autant.